Sur Radio Bus, vous écoutez la radio la plus rapide. Radio Gymnase de Nyon, 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 Nyon.
Bonsoir auditeurs et auditrices, nous sommes ici sur Radio Gymnase de Nyon. Je suis Elisa.
Et Nathan.
Et aujourd'hui, nous allons, les trois, avec Lara, qui est en technique, vous parler de trois épisodes de radio.
Donc nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble pour continuer l'épisode concernant les causes de la guerre en Ukraine. Donc j'espère, chers auditeurs et auditrices, que vous avez bien suivi les chroniques précédentes.
Et oui, nous poursuivrons un aspect de l'article écrit par Jean-Pierre Filiu, issu du journal Le Monde, le 19 février 2023, que nos camarades ont traité dans les dernières chroniques. Pour l'Ukraine, la guerre a débuté en 2014 et non en 2022.
Nous allons, comme les autres groupes, nous interroger sur la raison de ce titre, par rapport à la date de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ensuite, je trouve ça étonnant que, selon l'article, la guerre en Ukraine aurait commencé non pas en 2022, mais en 2014. C'est pour ça qu'on va tenter de voir si les lecteurs des journaux auraient pu percevoir des signes en 2014 de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Et par conséquent, est-ce que les journalistes ont proposé des signes d'un enchaînement qui mènerait à l'invasion de l'Ukraine dans leurs articles ?
Ok, merci pour le contexte global. Mais pour en revenir au texte de Filiu, on est d'accord que selon lui, l'agression russe n'a pas commencé par l'invasion de la Russie de février 2022, mais 8 ans plus tôt, avec l'annexion de la Crimée et la guerre du Donbass ?
Annexion de la Crimée, guerre du Donbass, va falloir que tu m'expliques.
Alors, une chose à la fois, concentrons-nous sur la Crimée et laissons le privilège au dernier groupe de parler du Donbass. Pour te mettre un peu dans le contexte, la Crimée est située à l'est de l'Europe, entre le sud de l'Ukraine et l'ouest de la Russie. Bon, dis Nathan, je sais que l'article de Filiu te passionne, mais tu pourrais quand même m'écouter quand je t'explique un truc. Hein.
Oui, mais attends, j'ai un extrait de son article sous les yeux qui m'intrigue et qui pourrait peut-être nous aider à trouver des éléments. À l'époque où la Crimée faisait partie de l'Ukraine, l'article dit que le maître du Kremlin se venge de la chute de son protégé Yanukovych en envahissant la péninsule ukrainienne de la Crimée. Et il poursuit en disant qu'en mars 2014, Vladimir Poutine décrète l'annexion validée par un référendum sous occupation militaire. Ça fait pas penser à quelque chose ?
Je vois où tu veux en venir. Tu parles de l'article du Monde par Sylvie Kaufmann.
Alors, pas vraiment, mais développe ta pensée.
Mais si ! Il a été écrit à un moment, le 18 mars 2014, et il s'appelle « Après la Crimée, un monde nouveau ». Alors, je suis sûre que je t'en ai déjà parlé.
Non, je m'en rappelle pas. J'étais peut-être pas là ce jour-là.
Bah, en fait, ça me perturbe un peu, parce que dans l'article de Filiu, on nous dit que la Russie a décidé de se venger du fait que l'Ukraine ait chassé son président, alors que dans l'article de Kaufmann, on n'en parle pas du tout.
C'est vrai que c'est bizarre. Il donne quoi comme raisonnement, ton article ?
Eh bah, dans les grandes lignes, l'Union européenne est bouleversée par le fait qu'elle doit repenser complètement sa manière de gérer la Russie, surtout après que le monde entier eût dit non à l'annexion de la Crimée, mais que la Russie l'a quand même fait. Regarde. La déclaration d'indépendance de l'Ukraine en 1991 n'était pas conforme à la procédure soviétique prévue pour quitter les structures de l'URSS. Donc, Poutine veut le comeback de l'URSS ?
Je pense que tu fais des conclusions un peu hâtives. Ils disent dans l'article que, même s'il le déplore, le président russe sait que l'URSS appartient au passé. Perso, j'ai un peu l'impression que, selon l'article, Poutine a une envie de reconstruire et cultiver une image d'une Russie puissante. Je te le lis. La Russie est respectée et ne peut faire valoir ses intérêts que lorsque le pays est fort et se tient fermement debout.
Ah ouais, et regarde, même juste avant, pendant les 20 dernières années, la Russie était en phase de guérison. Celle-ci est terminée. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça donne l'image qu'avant, la Russie n'allait pas bien et que maintenant, elle a repris ses forces et que les choses vont changer. Qu'elle est à la conquête du pouvoir, sur la voie de reprendre ce qui lui appartenait à l'époque de l'URSS.
Ah ouais, je vois. Genre, il réquisitionne la Crimée qui lui appartenait, et ensuite c'est l'Ukraine, évident.
Oula, Nathan, tu fais des conclusions trop vite. Là, tu sais que l'Ukraine est annexée, alors qu'à l'époque, il ne savait pas. Essaie de te replonger en 2014, et de trouver d'autres indices moins évidents, comme tu dis.
Genre, le fait que la Russie commence à s'opposer de plus en plus dans ses principes à l'Europe.
Par exemple. En plus, t'as raison, regarde, ici ils le disent. Le vote sur la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies dénonçant l'illégalité du référendum de l'annexion de la Crimée à la Russie a mis en évidence l'isolement de la Russie.
Tous les pays étaient en plus d'accord de cette résolution, mais qu'ensuite elle a été refusée à cause du droit de veto de la Russie, on dirait vraiment que la Russie cherche à réaffirmer son pouvoir en fait.
Mais j'arrive pas à capter le but de la Russie à ce moment-là, genre pourquoi elle a décidé d'annexer la Crimée et tout ?
J'ai un autre article pour toi. Il est publié dans le journal Le Monde le 3 mars 2014 par Thomas Gomard. Il raconte que le Kremlin avait plusieurs objectifs lors de la prise de contrôle de la Crimée et que selon le journaliste, la situation en mars 2014 aurait permis de prévoir la suite des événements.
Ah oui, en effet. L'article dit aussi que la Russie a peut-être annexé la Crimée pour montrer au monde qu'elle est toujours une puissance à craindre et pour rassurer son peuple. Surtout après sa défaite symbolique lors de la guerre froide contre les États-Unis.
C'est ça. Et en plus, la prise de contrôle de la Crimée était, selon Thomas Gomard, aussi pour se préparer à une possible guerre contre l'Ukraine et à disposer d'une enclave sur la mer Noire pour une base navale. On constate tout de suite qu'il formule l'hypothèse qu'une guerre avec l'Ukraine est plausible. Il se demande, je cite, « Le Kremlin va-t-il se contenter de cette prise ou au contraire pousser son avantage ?» C'est une hypothèse incroyablement prédictive pour l'époque.
Oh, première fois qu'on parle des risques dans ces sources. Un autre élément de l'article qui montre qu'un lecteur aurait pu se douter que la Russie allait envahir l'Ukraine et que la stratégie de la Russie était de créer une sorte de conflit gelé pour éviter tout rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne. Auquel cas, la Russie ne pourrait pas attaquer l'Ukraine, car ça deviendrait très difficile de gagner une guerre contre elle et ses alliés européens.
Et en plus, la Russie ayant perdu la guerre froide contre les États-Unis, elle veut prouver au monde qu'elle est toujours forte et unie, chose qui n'est pas forcément vraie, comme on va en parler après.
Non, bon, on parle, mais j'ai toujours pas entendu ta réponse par rapport à tout à l'heure. À quel article pensais-tu quand je te parlais de la vengeance du Kremlin face à la chute de Yanukovych ?
Ah oui, merci de me le rappeler. Je pensais à un article du Monde qui s'appelle « Les grains de sable de Poutine », qui a été écrit par à nouveau Sylvie Kaufmann le 9 mars 2014. Elle raconte que la stratégie imaginée par le président russe pour ne pas perdre l'Ukraine n'est pas aussi infaillible qu'on le croit, et qu'elle est même fragile.
Oh là là, encore un autre point de vue. Moi qui croyais l'hypothèse de Thomas Gomard avec l'idée que le Kremlin avait un pouvoir important dans ce conflit.
Ne prends pas tout au pied de la lettre. Certes, Kaufmann écrit dans son article du 9 mars 2014 que Vladimir Poutine a montré différents stratagèmes, comme par exemple le fait que Yanukovych, qui a été renversé et exfiltré en Russie, produise une lettre de demande d'intervention le 1er mars, après avoir dit la veille qu'il était contre toute intervention militaire. Mais à la fin, elle rajoute que la Russie n'avait pas prévu le fait qu'il y ait des opposants, malgré les russophones dans la Crimée.
Est-ce que tu veux dire par là qu'elle n'avait pas vraiment anticipé la manière dont réagiraient les personnes face aux choses qu'elle a mises en place ?
Oui, en quelque sorte. C'est là que l'article est intéressant. Il exploite un point de vue différent que ceux qu'on a eu jusqu'à présent. Mmh. Tiens, regarde, passe le papier. L'opération en Crimée n'a pas l'air de plaire à tout le monde. On comprend que Poutine lui-même n'a pas réussi à anticiper certaines actions, ce qui donne des informations sur la manière dont les lecteurs du journal percevaient les informations écrites par les journalistes. Eux aussi, à cause de leur contexte historique, n'auraient pas pu
anticiper aussi facilement la guerre en Ukraine. Même Filiu le fait dans son article.
Pour résumer notre épisode, on a un journaliste qui nous amène à nous dire, comme le sous-entend aussi Filiu, que c'est une étape vers la Crimée, vers l'expansion plus large.
Et une autre journaliste qui nous met en garde face à cette idée que Poutine aurait en quelque sorte tout prévu à l'avance.
Bon, je vois que tu as de l'énergie. En voilà une bonne phrase de conclusion.
Maintenant, tout est plus clair.
Merci pour ta participation pour la chronique, Elisa.
Merci, Nathan. Tu vas maintenant céder ta place à Lara afin qu'elle et moi, nous parlons du feuilleton sur les femmes scientifiques. Mais avant ça, un peu de musique avec Sunday Bloody Sunday de U2. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. On espère qu'en cette fin d'année, les troisièmes, vous avez trouvé quoi faire l'année prochaine.
Déjà,
je suis bien d'accord avec toi, Elisa. C'est important pour notre carrière professionnelle.
Voir que c'est une femme qui les...
Ouh,
qui les
soit, moi, je vais faire une lettre, je pense. Je me vois bien en future maîtresse d'école. Et toi, Lara, tu veux faire quoi?
Ah, moi, je me vois trop aller à l'EPFL en génie mécanique. Ça m'a l'air dur, mais j'adore le challenge.
Quoi? Toi, en sciences?
Quoi, moi? Il y a un problème avec ce que j'ai dit?
Ah bah, c'est pas plutôt un métier exercé par les hommes? Tu sais qu'il y a seulement 8% de femmes dans cette faculté.
Mais non, justement, ces dernières années, les femmes scientifiques, les femmes sont de plus en plus présentes dans les domaines scientifiques. C'est vrai qu'il y a encore majoritairement des hommes, mais tout est en train de changer. Dans ce feuilleton, nous allons parler de la profession de 4 femmes scientifiques que notre classe avons interviewées et de comment elles le vivent et si elles sont constantes de... Si elles sont... différente avec les hommes exerçant le même métier.
Ah bon? Je suis désolée de ne pas t'avoir pris au sérieux alors.
Ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule à avoir ce genre d'idées reçues. À vrai dire, d'autres femmes scientifiques ont déjà subi ce genre de remarques. En effet, nous avons interviewé ces 4 femmes qui exercent maintenant un métier dans les sciences. Et il semblerait qu'elles ne sont pas toujours prises au sérieux. La première que nous écoutons est Julia Kluckman, la médecin dentiste de 50 ans. Avec Nathan, on a pu la rencontrer il y a quelques temps. Et voilà ce qu'elle nous a expliqué sur sa réaction de certaines de ses patients.
C'est vrai que il y a un effet de surprise pour des patients, des hommes, je pense principalement, oui, de voir que c'est une femme qui les soigne. Ils m'ont souvent pris pour l'assistante, la secrétaire. Et effectivement, il y a un petit moment de petit temps mort entre le moment où je leur dis que c'est moi qui vais les soigner et où ils acceptent que je les soigne.
Ah ouais, carrément, elle a été prise pour l'assistante. En mode, les femmes ne pourraient pas avoir un poste plus haut que secrétaire.
Et c'est surtout intéressant que Julia relève qu'elle doit faire mieux dans son domaine que les hommes pour leur prouver ses aptitudes. Bref, pour revenir sur ce qu'elle vient de dire par rapport à l'âge, un autre groupe a interrogé Karen Kinberger, cette fois-ci une biologiste marine qui se situe dans la même tranche d'âge que Julia, c'est-à-dire environ 50 ans.
Et moi, j'ai eu de la chance, comme j'ai fini à plus de 40 ans, ça veut dire, je pense que là, j'ai jamais eu ce problème. Comme j'ai quand même déjà un âge, ça veut dire qu'on m'a tout de suite pris au sérieux. Mais je pense que si je serais sortie à 30 ans, oui. Oui, ça c'est clair. Et comme justement je racontais avant, bah oui, justement quand vous dites une fois, ah mais on ne pourrait pas mettre un homme dans l'équipe ou comme ça. Mais sinon, je dois dire, moi c'est... Non, j'ai jamais eu trop ce problème qu'on me demande, laissez parler l'homme, c'est mieux. Non.
C'est marrant de voir que même pour une même époque, les préjugés varient. Pour Julia, c'est parfois le genre, et pour Karen, c'est plutôt un préjugé sur son âge.
Et c'est pas tout. Comme l'a remarqué Véronique Adam, doctorante en acoustique à l'EPFL, ayant toujours le même âge que Julia et Karen, les préjugés varient aussi selon les cultures.
Et elle le raconte notamment lors de ses voyages en Corée du Sud, et elle pense qu'en Suisse, il n'y a pas de problème, ou en tout cas, beaucoup moins qu'en Corée du Sud.
Donc plutôt une bonne surprise en fait. Elle a dit qu'en Suisse et en Europe, on est plus ouvert à ce niveau-là.
Ah ouais, c'est vrai, mais moi ce qui m'étonne surtout, c'est qu'il n'y avait pas vraiment aucun jugement, hein, mais juste de l'étonnement. Alors qu'ici, même si c'est plus courant, les femmes subissent encore beaucoup de préjugés à ce sujet.
Oui, c'est pas faux. Comme le dit Karen, ici même, si normalement c'est considéré normal que les femmes puissent étudier, aussi dans les domaines scientifiques, il y a quand même de l'étonnement lorsqu'on entend parler. Et pour une certaine raison, les gens ressentent toujours le besoin de demander. On peut voir que ce manque de prise au sérieux par rapport aux femmes dans le domaine des sciences dépend de l'âge, mais aussi du pays. Il est donc facile d'être une femme scientifique en Suisse, mais seulement après de nombreuses années d'expérience.
Ouais, et en plus de tout ça, t'imagines être la seule dans une classe avec que des mecs? Ah, moi je pourrais pas. Hein.
Tu sais, il ne faut pas prendre ces cas extrêmes. C'est vrai qu'au gymnase, il y a des classes avec 2 filles, voire pas du tout, en maths physique, mais regarde notre classe, on est autant de filles que de garçons. Et en plus, comme le témoigne Julia, le ratio filles-garçons dans les études scientifiques est en train de s'harmoniser. Écoute ça.
C'est moins fréquent, justement, que ce soit avec des confrères ou avec des commerciaux, avec les patients, ça se lisse, ça s'harmonie, enfin, ça se nivelle, disons. Le rapport... avec tout cet environnement et moi, la façon dont la communication se fait ou les rapports se font, je pense que ça s'harmonise entre hommes et femmes.
Et pour continuer sur la même lancée, Véronique nous témoigne cela.
Alors en Asie, clairement. Oui. Très clairement, mais ici, non.
En Europe, non.
Non, il y a de plus en plus de filles qui sont, justement, je le vois dans cette société dans laquelle c'est beaucoup des ingénieurs du son dans cette société. Et là, c'est clairement un métier plutôt masculin jusqu'à maintenant. Et là, le nombre de filles est en train d'exploser. Donc, là, de ce côté-là, il y a de plus en plus d'intérêt pour avoir une touche aussi féminine. C'est aussi un côté artistique dans ces métiers. Donc, le côté féminin est assez apprécié plutôt que l'inverse, en fait. Donc,
Ah, je vois. Mais ça me travaille le fait qu'un homme aura plus de chances d'obtenir le poste qu'une femme. Ça veut donc dire que la société a plus confiance dans les hommes que dans les femmes pour certains métiers.
Et oui, comme on a pu le voir tout au long de cet épisode, et grâce aux interventions de Julia, Véronique et Karen, le métier des femmes scientifiques est en constante évolution. Et ce n'est sûrement pas au bout de ses surprises.
Merci pour cette phrase de fin, Lara. Et nous allons clore cette chronique sur les femmes scientifiques pour laisser place à la chanson « I Will Survive » de Gloria Gaynor. Merci de nous avoir écoutés.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, je suis ravi d'animer pour vous cette dernière chronique de notre émission que nous présente avec Lisa et Lara. En parlant de Lara, où est-elle? Je la vois pas, est-ce que...
J'arrive, désolée, je suis en retard. J'ai juste vite fait appeler ma grand-mère pour lui dire qu'elle avait oublié un de ses cartons chez nous, elle vient de déménager.
Et c'est tout bon, elle vient de le chercher?
Non, pas encore, j'ai demandé si je pouvais le garder un petit moment parce qu'il est rempli de journaux hyper vieux. J'en ai lu quelques-uns dans le train ce matin, et franchement, c'est assez intéressant.
Ah bon? Ils étaient sur quoi?
L'apparition du mur de Berlin, ou enfin sa construction.
Ah, le fameux rideau de fer qui a été construit durant la Seconde Guerre mondiale.
Oula, Nathan, tu mélanges un peu les événements. Déjà, j'espère que tu rigolais en disant que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu sais au moins quand est-ce qu'il a été construit?
Bien sûr. Bon, je sais pas, vas-y, crache le morceau.
Déjà, pour le contexte historique, le mur de Berlin a été construit durant ce qu'on appelle la guerre froide. C'est un long mur qui séparait Berlin en deux parties.
Ah oui, ça je me souviens, on avait vu ça en 11e année. C'est un peu une sorte de guerre entre les États-Unis et l'URSS après la Seconde Guerre mondiale, non?
Exact, et bien voilà, tu te souviens d'un peu d'histoire. Ce qui est important à retenir, c'est que même si la situation était très tendue car ces deux grandes puissances se faisaient la concurrence sur plein de domaines, comme notamment la conquête spatiale, les courses aux armements en particulier, et se faisaient même des guerres de manière indirecte, comme la guerre du Vietnam par exemple, ou la guerre du Cuba, ce n'était pourtant pas une vraie guerre, car le conflit n'a jamais éclaté directement entre ces deux puissances.
Et c'est quoi le lien avec le mur déjà?
Eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, les vainqueurs de cette dernière se sont partagés l'Allemagne, mais surtout la capitale Berlin, en quatre parties. Il y avait à cette époque, dans la capitale allemande, de grandes tensions géopolitiques entre les grandes puissances européennes, qui étaient séparées entre l'Est, qui appartenait à l'Union soviétique, et l'Ouest, qui était constitué des parties de l'Angleterre, la France et les États-Unis. Berlin se situait au milieu de la partie soviétique de l'Allemagne. Cela renforçait plus les tensions aux frontières. Puisque les conditions de vie différaient beaucoup, les gens fuyaient Berlin-Est pour Berlin-Ouest. La construction du mur débute alors en 1961 pour éviter l'exode complet de la partie Est.
Non, mais les gens auraient dû fuir plus tôt, avant qu'ils ne construisent un mur si la tension était si forte.
Oh, Molo Lastigo, ce n'était pas si évident que ça à l'époque. Il y avait quand même des contrôles pour éviter cela. Et tu serais même étonné d'apprendre que la construction du mur qui sépare la ville s'est faite du jour au lendemain, littéralement.
Quoi, le mur a été construit en un jour? Mais ça a bien dû être annoncé ou discuté avant, non?
Non, pas tout le mur a été construit en un jour, mais une bonne partie. Tiens, regarde, c'est dans les journaux que je lisais ce matin. J'ai l'édition de la Tribune de Lausanne datant du 13 août 1961, le jour juste avant la construction du mur, et aussi celle du 14 août 1961, le jour de sa construction. On peut regarder s'ils ont annoncé ou prévenu la population, si tu veux.
Bah ouais, pourquoi pas, ça m'intéresse maintenant.
Alors, déjà, dans celui du 13... Attends, c'est où qu'on parle de Berlin déjà? Ah tiens, regarde, le titre de la page 18. Contact prochain avec Moscou en vue d'une éventuelle négociation sur Berlin. Ça prend moins d'une page, c'est rapide à lire.
Le jour avant la construction du mur? Mais y'a rien sur la première page, c'est étonnant. Ça n'arrive qu'après 18 pages. C'était donc pas l'événement le plus important du journal. Je pense que les gens devaient bien être au courant qu'un mur allait se construire. Genre si tu dis qu'il y avait déjà des tensions et tout, ils auraient dû fuir directement.
C'est facile dit comme ça, maintenant tu sais ce qui s'est passé. Tu sais que les gens ne remarquent pas forcément quand ils vivent l'histoire. Personne n'avait prévu le Covid non plus.
En plus, retourne voir la page d'avant et regarde le titre. On nous parle de Desperados qui voulait prendre le pouvoir en Argentine. C'est loin quand même l'Argentine par rapport à ce qui est en train de se passer juste à côté en Allemagne. En plus, perso, j'ai jamais entendu parler des Desperados de ma vie, alors que leur article prend bien plus de place que celui de Berlin. Alors que le mur de Berlin, d'après ce que t'es en train de dire, c'est quand même un événement qui a marqué l'histoire.
Ah, mais la même, j'en ai jamais entendu parler des Desperados. Et pourtant, c'est avant les nouvelles sur les tensions à Berlin.
Après, peut-être qu'ils avaient déjà parlé de Berlin dans les journaux d'avant et qu'il n'y a pas eu de grosse évolution, donc pas besoin de faire les gros titres du 13 août.
En plus, écoute ça. Le journaliste écrit sur Berlin. Désir de négocier un règlement de la question berlinoise. Et aussi, sont d'accord pour la nécessité de négociation. Rien n'est certain dans ce qu'ils disent. Ce sont plus des spéculations qu'autre chose.
Ah, c'est donc le contraire que ce que je pensais. C'était pas si évident que ça. En plus, c'est tout mélangé. Genre, juste en dessous, on nous parle de l'élection de l'évêque de Londres, des avions autrichiens qui délivreraient des explosifs, d'un putsch en Algérie et plein d'autres choses. Il y a même une section qui s'appelle « Vive le tourisme en France ».
Ouais, c'est vrai. Il y a plein de trucs qui m'ont l'air moins importants.
Attends, j'ai repéré un autre truc. L'article dit « L'afflux de réfugiés vers Berlin-Ouest ne faiblit pas ». De vendredi à samedi, 2662 réfugiés ont demandé le droit d'asile. Donc les gens fuyaient effectivement déjà avant la construction du mur. Ce qui veut dire qu'ils devaient bien se douter que l'État prendrait des mesures pour empêcher tout ça.
Il semblerait même que ce soit la raison pour laquelle le mur a été construit. Regarde, dans le journal du 14 août, toujours la Tribune de Lausanne, sur la première page, le titre est « Fermeture de la frontière Berlin-Est et Berlin-Ouest ». Dans l'article qui prend quasiment toute la page cette fois, ces mesures ont été interprétées comme étant uniquement destinées à arrêter l'exode sans cesse grandissante des Allemands de l'Est vers l'Ouest.
Pourtant, dans le journal du 13 août, on parlait de négociations. Et maintenant, ces actions sont décrites comme étant la violation flagrante du statut quadripartite de Berlin. Ce que j'ai compris, c'est qu'en séparant, les Alliés se sont mis d'accord que même si le pays était séparé, il devait quand même y avoir une libre circulation entre les parties.
C'est vrai que ça se contredit un peu du jour au lendemain. La situation est décrite comme dangereusement explosive et pouvant avoir des conséquences très dangereuses.
Mais regarde, si ce n'est pas aussi fort comme terme, dans celui du 13, ils disent quand même la crise de Berlin ou la question centrale, celle de Berlin bien sûr. Ça montre quand même une certaine évidence et que les personnes de l'époque savaient que la situation était particulière.
Ouais, mais la phrase qui me perturbe le plus, c'est que le journaliste dit dans celui du 14, de la date officielle de sa construction, à vrai dire, la chose n'a surpris personne. Il y avait quelque temps qu'elle était en l'air. Pourtant, il n'y a eu aucune mention de la construction d'un mur, à part si j'ai raté quelque chose.
Ouais, c'est vrai que ça a l'air vachement plus utile le 13 août en tout cas. Genre, il parle seulement des négociations et là, c'est marqué « Monsieur K a dit on ne serait pas hostile à des entretiens rapides, même avant le 22e congrès du Parti communiste soviétique d'octobre. Les Occidentaux paraissaient moins pressés et on pense qu'ils préféreraient attendre les sélections ouest-allemandes. Même si on nous dit que l'Est semble pressé, le journal parle d'octobre, alors que là on est mi-août. Donc oui, c'est rapide, mais pas du jour au lendemain, quoi.
Justement, dans ce journal, il est clair qu'il y a des tensions. mais ils donnent quand même l'impression qu'il reste du temps. On dirait même qu'ils sont plutôt positifs, car au début, le journal dit « Tout en brandissant la menace dans tous ses récents discours et en vitupérant l'Occident, M. Khrouchtchev en mainte occasion a glissé des phrases conciliantes et manifeste ainsi son désir de négocier. Vu ce qui s'est passé, je dirais qu'ils l'ont plutôt mal interprété. »
Et bam, le jour d'après, on dirait qu'on n'est pas loin d'une troisième guerre mondiale. Je ne sais pas si tu as déjà lu jusque-là, mais dans cette partie, on nous dit que les pays commencent à se préparer pour la guerre. C'est marqué mot pour mot. Quelques pays de l'OTAN ont annoncé une mobilisation partielle.
Ah ouais, carrément. On nous parle aussi de beaucoup d'incidents qu'il y a eu avec des manifestations et des mesures de sécurité qui ont été mises en place.
Aïe aïe aïe, t'as vu l'heure qu'il est ? C'est bientôt la fin de l'émission. Donc pour conclure, on dirait bien que les gens étaient au courant de la tension entre Berlin Est et Ouest. Il était presque évident que quelque chose devait être entrepris pour gérer la situation. Pourtant, ils ne pouvaient pas savoir que cela allait arriver aussi abruptement et de manière aussi radicale.
Maintenant, nous passons la chanson « 99 Luftballons » par Nena.
Et sur ce, c'est la fin de notre temps à l'antenne. On espère que cela vous a intéressé. On vous dit au revoir et on vous souhaite une bonne écoute avant la prochaine émission.